afin de déjuger, c'est une initiative heureuse et louable.
Bien, merci beaucoup, Monsieur Bencher. Nous avons en ligne quelques auditeurs, mais je vais leur demander de patienter. Kadiatou.
Merci Idrissa. Moi, je vais demander à Monsieur Waldiojo. C'est Waldiojo Ndiaye. Monsieur Ndiaye.
Oui.
En écoutant tout à l'heure le discours du président Sall qui évoque ici la paix selon la religion, selon l'islam, et justice sociale. Qu'est-ce que vous pensez de cela?
Merci de me donner l'opportunité de m'adresser à vos auditeurs. Également, je pense qu'il a posé un débat de fond. Et ce débat-là, aujourd'hui, est extrêmement important. C'est-à-dire, il faut qu'on nous allons, comme on l'a dit, mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, l'islam, c'est une religion du juste milieu, de l'équilibre, de la justice sociale, de la paix. Et je me félicite souvent, par exemple, sur la nuance même du contenu théorique. Quand on parle de djihadistes, généralement, aujourd'hui, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit même pas leur attribuer le nom de djihadistes. Parce qu'en réalité, la djihad, quand ça se faisait, ça répondait à des normes. C'est-à-dire qu'il faut les appeler tout simplement les terroristes. Aujourd'hui, par exemple, quand nous voyons ce qui se passe à travers l'Afrique, aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. C'est-à-dire, pour aller dans le sens de vouloir rétablir les équilibres, essayer de régler cette question qui menace aujourd'hui la sécurité de toute la sous-région, surtout de l'Afrique de l'Ouest, en commençant par le Mali, qui est frontalière avec notre pays. Vous remontez en Mauritanie. Toutes ces questions-là aujourd'hui, par exemple, le terreau fertile, de ce terrorisme-là, fondamentalement, il faut le puiser au niveau de la justice sociale. Parce qu'en réalité, c'est là-bas qu'ils vont puiser les éléments qui concourent à faire leurs actions. Parce que si nous analysons objectivement les choses telles que ça se présente aujourd'hui dans notre sous-région, c'est-à-dire c'est des jeunes sans perspective d'avenir qu'on essaie de recruter, qu'on essaie d'embrigader et avec, par exemple, un lavage de cerveau qui les pousse pratiquement à faire des actes inconsidérés. Et sous ce rapport-là, je pense que c'est quand une bonne analyse de Boko Haram, de Acme, etc., qui pousse, par exemple, à nous rendre compte qu'ils sont pratiquement dans tous les coups foireux dans la sous-région. Ils sont dans les trafics de drogue, ils sont dans le banditisme, etc. C'est pour cela aujourd'hui, le véritable débat, c'est on se salue fondamentalement cette conférence qui a été convoquée au Sénégal, mais il ne faut pas que ça soit juste une conférence des échanges entre des intellectuels et les politiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parvienne à le distiller au niveau des populations, au niveau du peuple. Et c'est à ce niveau-là que doit intervenir fondamentalement la société civile.
Merci.
Donc moi, je pense...
Oui, je voudrais maintenant... je rappelle à nos auditeurs que nous avons comme invité aujourd'hui dans ce dialogue des religions qui porte sur la conférence internationale sur l'islam et la paix qui s'est tenue cette semaine à Dakar. Nous avons comme invité M. Waldiojo Ndiaye, que vous venez d'entendre. Il est membre de la société civile sénégalaise et expert en gouvernance démocratique. Et M. Galeb Bencher, président de la conférence mondiale des religions pour la paix. Maintenant, vos appels. Emma, pour commencer. Emma Ardimi.
Oui. Et bonsoir, Voix d'Amérique, bonsoir à tous les auditeurs.
Allez-y, Emma.
Oui, moi, je me réjouis de la bonne démarche que le président Macky Sall a eu à évoquer pour la conférence sur la paix de l'islam. Mais j'ai un grand souci, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que cette conférence qui prêche l'égalité et la paix de l'islam, qui parle un peu de la radicalisation de certains groupes. À l'occasion, j'aimerais dire Boko Haram, qu'on n'a pas associé. Il était quand même question, parce que si Boko Haram s'est radicalisé aujourd'hui, c'est parce qu'il avait été opprimé, subi une forte pression de la part du gouvernement nigérien. Donc il fallait quand même essayer de les associer à cette conférence. Donc, je ne sais pas. Parce qu'on ne les a pas associés. C'est un peu ça mon souci, quoi. On veut réellement mettre fin à cette Boko Haram. qui au début était d'abord une secte religieuse, qui s'est radicalisée parce qu'on les a oppressés.
Okay.
Et qui a même tendre la main. Macky Sall aujourd'hui dit qu'il ne peut pas négocier avec les terroristes. Mais oui, mais la réalité, il fallait dire quoi alors?
Aymar, donnez l'occasion maintenant à M. Valjoujindjaï, puisqu'il est à Dakar, de répondre à votre question. Est-ce qu'il fallait inviter et comment inviter Boko Haram à ce genre de conférence?
Non, non, c'est vrai que là, il pose un débat de fond, un problème de fond. Mais maintenant, comment inviter Boko Haram? Ça, c'est la question. C'est-à-dire, est-ce qu'eux, ils sont dans une perspective même de dialoguer? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, eux, leur objectif, leur logique, les dispositions qu'ils prennent en réalité et leurs actions qu'ils mènent, c'est une autodestruction de la société. Donc, sous ce rapport-là, moi, je pense que, par exemple, pour dialoguer, il faut être deux. Et comment inviter Boko Haram? Par quel canot? Il faut qu'ils soient dans des dispositions de pouvoir dialoguer. Donc, moi, je pense que, quand même, il faut savoir raison garder. Aujourd'hui, ces gens-là ne nous donnent pas de perspective en termes de dialogue, en termes d'échange, en termes d'analyse d'une situation. Eux, pour eux, ils se sont braqués. C'est vrai, ils essaient de remonter. L'auditeur a essayé de, l'intervenant a essayé de remonter un peu l'histoire en disant qu'on ne les a pas donné la possibilité de s'exprimer. C'est pour cela qu'ils se sont radicalisés. Mais est-ce que quand on se radicalise, mais ils pouvaient emprunter la voie démocratique? Parce que s'ils sont capables de mobiliser une bonne partie de la population, ils peuvent le faire sur le terrain démocratique, en développant leurs idées. Mais pas, par exemple, en prenant les armes, mais pratiquement. Mais c'est hors norme, c'est totalement ahurissant quand on voit ce qui se passe au Nigeria. Des jeunes filles de rien du tout, avec des bombes humaines qui se promènent, des filles de 11 ans, 12 ans, qui s'éclatent comme ça dans les marchés, etc. Ça dépasse l'entendement humain. Par exemple, vous prenez le cas de Daesh. On tue le père, on prend un enfant, un bébé de rien du tout, on le transforme en bombe humaine. Donc ça, c'est-à-dire ça dépasse l'entendement humain, ça dépasse l'humanisme.
Ça dépasse,
c'est ça le problème aujourd'hui de fond.
Ça dépasse l'entendement humain, l'entendement, ça dépasse l'humanisme, M. Galeb Bencher.
Ça dépasse l'humanisme, mais on a oublié, effacé des mémoires, occulté le véritable humanisme d'expression arabe qui a prévalu en contexte islamique. On ne le connaît même pas. Qui de nos jours va parler de l'Asma'i, qui va parler de Tawhidi, qui va parler de Miskawai? Donc c'est tout ce patrimoine-là qui est totalement effacé des mémoires. On ne peut pas indéfiniment, encore une fois, je ne voudrais pas jouer les Cassandres, au contraire, il vaut mieux tard que jamais être dans une vision optimiste et constructive. Mais malheureusement, ce que nous payons, ce sont des démissions, des fêlures morales. Deux ou trois décennies nous ont minés de l'intérieur au niveau d'une vision, d'un discours éculé, anti-humaniste. Et finalement, il y avait une frilosité, une pusillanimité, voire une lâcheté de fait, à condamner, fustiger, récuser totalement ces dérives meurtrières qui se sont abattues au nom de la tradition religieuse islamique. Rappelons-nous du peuple algérien, comment il a souffert devant l'hydre terroriste d'essence religieuse. Il y a maintenant, de nos jours, des régimes qui participent à la coalition qui bombarde ce que j'ai appelé tout à l'heure une monstruosité, c'est-à-dire Daesh, et votre invité dit que ça dépasse l'entendement. Eh bien, ces pays qui participent au sein de la coalition, eh bien, appliquent chez eux des choses que Daesh applique avec une cruauté en sus, c'est-à-dire que c'est une affaire de vision du monde, de progrès, une notion même de l'idée que nous faisons de l'homme, liberté de conscience, démocratie, les droits fondamentaux de la personne humaine, cesser de tenir un discours éculé, et si nous voulons sortir de l'ornière, il y a certes ce type de conférence qu'il faut tenir, mais il y a aussi un énorme travail de type intellectuel, refonder la pensée théologique islamique et mener de pair et de front les deux actions. Une action sur le terrain de sensibilisation, d'éducation, d'instruction, d'acquisition du savoir, de culture, d'ouverture sur le monde, d'altérité, d'ouverture sur l'altérité confessionnelle, sur autrui. Est-ce que l'université en contexte islamique forme des sémitisants ? Est-ce qu'elle forme des biblistes ? Est-ce qu'elle forme ceux qui vont être spécialistes de la Torah ? Est-ce qu'elle ouvre sur la connaissance de l'Église et de la patristique et de l'Évangile, par exemple, sur d'autres traditions religieuses ? Nous ne pouvons pas, en contexte islamique, continuer à croire que le monde a commencé en 622, qu'avant c'était le temps de l'obscurantisme ou de la jahiliya, et après ce sont la lumière de la foi. Quand musulmans s'étaient sur la face grecque, et bien ils ont produit une civilisation impériale à l'architecture spatiale, et ce sont des humanismes que nous parlions.
Merci encore une fois, Monsieur Galeb Bencher. Kadiatou.
J'avais une question à poser à nos auditeurs. Monsieur Ndiaye en avait fait part tout à l'heure dans son intervention, et ça. Pourquoi ces gens-là ne vont pas vers une lutte démocratique, instaurer un débat démocratique pour essayer d'imposer leur idéologie? Et ça me rappelle, j'ai suivi une conférence sur la sécurité et la paix aux Nations Unies, où il y avait eu une intervention de M. Ahmed Ould Dada, qui est le secrétaire général d'un grand parti de la Mauritanie, et qui disait qu'il faudrait maintenant repenser à lutter contre le terrorisme en faisant une lutte politique au lieu continuer à faire une lutte militaire. Parce que maintenant, il dit que c'est biaisé. Et lui, il pense qu'il faudrait repenser maintenant et ouvrir un autre chapitre. Et qu'est-ce que nos invités pensent de tout cela?
Ok, Monsieur Waldio Ndiaye. Allô Kadiatou semble dire que, bon, il faudrait plutôt lancer la lutte dans le domaine politique plutôt que militaire, peut-être ça aiderait à résoudre le problème. Est-ce que c'est pas trop tard?
Moi, je pense qu'il faut, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Ça, c'est un aspect. Mais quand même, il faut qu'on revienne un peu. On essaie de réinterroger un peu l'histoire, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que quelque part aussi les musulmans ont été acculés dans le dernier retranchement. C'est vrai. Mais fondamentalement, aujourd'hui, si nous analysons objectivement la situation, il me semble important de réinstaurer un débat de fond sur ces questions-là.
Monsieur Ndiaye,
au niveau de... Oui,
il y a les auditeurs qui voudraient intervenir et j'ai peur qu'ils ne s'impatientent trop. Alors donc, Roger et Alphonse sont en ligne. Commençons par Roger qui est là depuis un certain temps à attendre. Roger, allez-y.
Oui, moi je voulais poser des questions à M. Ndiaye. Oui, aujourd'hui on parle de islam radical. Moi j'aimerais qu'il éclaircisse un peu les auditeurs, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup qui ne savent pas que la radicalisation. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis catholique et mon père est musulman. Hein. Voilà. Donc, il faut qu'il me
okay. un peu sur ce. Alors, qu'est-ce qu'on entend par islam radical?
Non, au fait, je vais répondre tout de suite à l'auditeur pour lui dire, moi j'en suis l'exemple patent du dialogue islamo-chrétien au Sénégal. Par exemple, moi, mon père est musulman, ma mère, elle est chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le niveau d'intégration sociale au niveau de notre pays, par exemple, en fait, ce n'est pas un débat qui se pose, parce qu'on a su mettre en place des mécanismes sociaux qui permettent des courroies de transmission entre les différentes religions. Ça, c'est un. Deuxième élément, il y a un rôle. Même si des fois on peut être très critique par rapport au rôle, par exemple, des sectes tels que le mouridisme, le Tidjania au Sénégal, mais en réalité, avec l'Église chrétienne, au Sénégal, par exemple, c'est un débat permanent. Pour le dialogue islamo-chrétien au Sénégal est permanent. C'est permanent, c'est-à-dire c'est une longue fleuve, c'est un long fleuve continu. Quand il y a un problème politique, économique qui se pose généralement, les religieux se réunissent et se prononcent sur la question.
Alors,
ça, c'est des questions.
Oui, donc, alors, monsieur Ndiaye.
Moi, je pense que ça permet de régler la question du radicalisme au niveau de l'islam.
Mais est-ce que
en
ça.
En réalité, mettre même le terme radical et mettre l'islam à côté, moi, ça me pose problème. Parce que quand on dit que l'islam est l'équilibre, dans l'équilibrisme, il n'y a pas. Dans l'équilibre, pas l'équilibrisme. Dans l'équilibre, il n'y a pas de radicalisme. En réalité, c'est une religion de tolérance, de compréhension de l'autre.
Merci.
Moi, c'est comme ça que je le perçois.
Merci, monsieur Ndiaye. Vous avez fait allusion au dialogue qui se poursuit entre les différentes confessions dans votre pays, et ça me fait penser à ce que disait tout à l'heure monsieur Galeb Bencher, en disant qu'en fait, c'était pas réellement aux politiques, n'est-ce pas, d'engager le dialogue, le débat, etc. Il faut aussi que les chefs religieux s'impliquent. N'est-ce pas ce que vous avez essayé de nous dire à un moment donné, M. Galeb Bencher?
Oui, c'est vrai. Enfin, que les initiatives émanent des gens de bonne volonté, y compris des hommes politiques ou de la classe politique, tout ça est merveilleux et c'est la bienvenue. Mais en ce qui concerne les traditions religieuses, il incombe aux hiérarques, aux chefs religieux, aux dignitaires, aux responsables, aux mouftis, aux cheikhs, aux imams, aux rabbins, aux évêques, aux métropolites, que sais-je encore. Si j'élargis au-delà de la famille abrahamique, donc aux lamas, aux bonzes, etc., de le faire. Parce que ce sont eux qui sont entendus par leurs ouailles, par leurs fidèles. Et ce sont eux aussi qui ont la responsabilité du haut de leur chair ou de leur minbar d'enseigner la miséricorde, l'amour, la bonté, l'ouverture, et que ceci ne doit pas être que des mots vains, ça doit être aussi une réalité. Maintenant qu'il y ait des symposias, des séminaires, des conférences ou des colloques internationaux, c'est très bien, il faut le mener. J'ajoute, je ne voudrais pas être long, et si c'est le cas, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Il y a deux aspects. En ce qui nous concerne, et avec cette affaire de terrorisme abject qui sévit au nom de la tradition religieuse islamique, il y a des raisons extrinsèques qui l'expliquent. Il y a aussi des facteurs endogènes. Parmi les raisons extrinsèques, on a parlé tout à l'heure de justice sociale, on a parlé de colonialisme, on a parlé de néo-impérialisme, on a parlé de pauvreté, on a parlé aussi de l'égalité internationale totalement bafouée, et surtout au Proche-Orient. Sur un siècle et demi, on peut avoir tour à tour Mac Mahon, Sykes-Picot, Balfour, Alembi, Laurence d'Arabie, que sais-je encore, et ça finit par Abu Ghraib et des résolutions de l'ONU qui n'ont jamais été appliquées. Mais en interne aussi, il faut le savoir, il y a une régression tragique. En deux temps, une première par rapport à l'apogée civilisationnelle dont je parlais, et je ne suis pas homme à ne pas amener de satisfaction devant l'œuvre des anciens, mais aussi par rapport aux années 30. Aux années 30, en Égypte, quelqu'un a écrit un livre « Pourquoi je suis athée ?» Que pensez-vous qu'on lui ait fait ? Rien, si ce n'est que d'avoir répondu dans un autre livre « Eh bien, pourquoi je suis croyant musulman ?» De nos jours, c'est impensable, que ce soit en Égypte ou ailleurs. Et c'est contre cette régression tragique que je m'insurge à titre personnel. Et donc ce travail intellectuel, théologique, philosophique, de sensibilisation, va de pair avec le travail politique ou le travail de société civile. Donc les chantiers sont titanesques.
Alors, merci, monsieur Galeb. Nous allons donner le micro à notre...
Alphonse.
Oui. Alphonse, vous êtes là? Vous avez la parole.
Oui, je suis là. Vous venez de dire que l'islam, c'est une religion de paix, c'est une religion de l'équilibre, c'est une religion de justice sociale. Oui, je sens que ces logiques-là sont normales pour les vrais musulmans. Mais pour ceux qui sont dans l'extrémisme, cette logique-là ne tient pas. Alors, je voudrais savoir si ce n'est plus trop tard avec ces logiques morales, si ce n'est pas trop tard parce que le terrorisme a pris de l'ampleur.
Malheureusement, le temps qui nous était imparti est terminé, touche à sa fin. Merci beaucoup à M. Aldio Djindiaye, qui est membre de la société civile sénégalaise. Il est expert en gouvernance démocratique. À M. Galeb Bencher, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Merci à Kadiatou Traoré et de l'autre côté de la vitre, Joselle Morissin. C'était Idrissa Seydou Dia pour le dialogue des religions et toutes mes excuses aux auditeurs qui n'ont pas pu intervenir.